Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'année passée, nous avons étudié tout au long des mois, des semaines, entrecoupées de thématiques, mais on a étudié l'évangile de Jean. Hein? Et si vous vous souvenez bien, en tout cas, ce qu'on peut retenir de l'évangile de Jean, c'est qu'il présente Jésus comme étant Dieu. Alors bien sûr, avec le conseil d'église, là, avec les responsables, on a décidé qu'on allait aborder une épître. Une épître, ce n'est pas la femme d'un apôtre, c'est une lettre. Et donc la lettre que nous avons choisie, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul, qui est la lettre à l'église de Colosse, aux Colossiens. Donc ce matin, on appelle ça un enseignement, donc on est plutôt dans une dynamique d'être enseigné, un petit peu comme si on était dans un cours biblique, bien que j'essaye d'être le plus, on va essayer, le moins endormissant possible, on va dire. Voilà, on est dans cette dynamique. Vous avez vu la petite vidéo qui est passée? Vous l'avez pas vu? Voilà, c'est beau, hein? Hein, c'est fantastique, hein, de voir un aigle comme ça en plein vol. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont dû accrocher une caméra sur la tête de l'aigle derrière là. Mais c'est magnifique, magnifique. La lettre aux Colossiens, donc c'est 4 chapitres, on aura vite fait le tour, c'est-à-dire que je pense que fin décembre on aura terminé. J'espère qu'avec les prédicateurs, on a organisé une réunion, donc il y a une date qui est prévue, mais on attend juste une réponse. Donc on va se rejoindre, on va se concerter, on va discuter, voir un petit peu comment on va échelonner l'enseignement à partir de janvier, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet, comme livre, etc. Vendredi soir, on a fait une étude qui pourrait se rapporter aussi à ce que nous allons voir ce matin. On a étudié les animaux dans la Bible. Sous-entendu, la question, est-ce que nous allons retrouver dans le ciel nos animaux domestiques, Iron, Lucky, Pepsi, donc voilà, c'est des questions que on n'a pas pu vraiment répondre à cette question, mais quand même, hein, ça nous laisse quand même, espérer. Hein. Donc on est un peu aussi là-dedans aujourd'hui. Colosse, l'église aux Colossiens, l'épître de Paul. Donc on va faire le premier chapitre. Je ne pourrai pas tout voir sur ce premier chapitre, puisqu'on va faire les versets 1 à 20. Et rien que là, c'est énorme. Donc Colosse, c'est une ville d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, du côté de l'Asie, située à environ à 200 km à l'est d'Éphèse. Philémon vivait à Colosse, et Paul ne semble pas avoir visité cette ville. C'est son compagnon Épaphras, colossien aussi, donc issu, originaire de la ville de Colosse, qui fut le premier à y apporter l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 1er, verset 6 à 8, il est dit « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. » Colossiens 4, 12. « Épaphras, votre compatriote, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. » Paul est probablement prisonnier à Rome lorsqu'Épaphras vient l'informer que les Colossiens, que cette communauté de Colosses, eh bien, est influencée par un mauvais enseignement. Un enseignement qui dit que pour connaître Dieu, il faut vénérer des puissances spirituelles, se soumettre à certains rites, comme la circoncision, observer des règles strictes concernant la nourriture. Et donc la situation inquiète Paul, et il écrit donc cette lettre qui va être apportée à cette église de Colosse par Tychique et Onésime. Tychique et Onésime, ce sont des noms, hein. Non, 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 personne. On ne donne plus ce genre de nom à nos enfants. En tout cas ici. Paul est probablement prisonnier à Rome lorsqu'Épaphras donc vient informer qu'il y a une influence. Colossiens 4, 7. « En ce qui me concerne, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle bien-aimé, frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Je crois sincèrement que l'Église de Jésus-Christ du 21e siècle a encore besoin de cette lettre aux Colossiens. Parce qu'il y a de la pertinence dans cette lettre. Elle est pertinente. Paul écrit que personne ne vous égare, ou que personne ne vous dépouille, ou que personne ne vous juge. Vous avez besoin uniquement de la plénitude du Christ. Sous-entendu, toutes les lois, les systèmes, les trucs, les règles, les méthodes, les dénominations, les soi-disant disciplines, organisations élaborées par les hommes, ne peuvent remplacer les richesses qui appartiennent qu'à Christ, le Fils de Dieu. Toutes sortes de philosophies, de doctrines, d'idées importées d'Orient se croisaient dans cette région, on va dire cosmopolite. Le culte le plus répandu à Colosse était celui de Dionysos, le Bacchus grec, de Cybèle, la mère des dieux. Ajouté à cela, le judaïsme avec la diaspora juive qui était présente. L'église de Colosse semble principale être composée de non-juifs. C'est une église assez jeune, 5 ans, 6 ans maximum d'existence. Et l'hérésie qui menaçait cette communauté était finalement un mélange de spiritualité d'Orient et de légalisme juif, avec des éléments que les théologiens appellent le gnosticisme. Gnosticisme. La racine de ce mot est gnosis. Gnosis, ou gnosis plutôt. Gnosis, c'est la connaissance. Et en fait, un agnostique, par exemple la personne qui vous dit « moi je suis agnostique », ça veut dire qu'elle ne croit pas nécessairement que Dieu n'existe pas, mais elle croit qu'on ne peut pas le connaître. Quant aux gnostiques, ils prétendaient, eux, mieux connaître les choses profondes de Dieu. Ils formaient en quelque sorte l'aristocratie spirituelle. C'est-à-dire, si tu veux être épanoui, il faut nous écouter. Il va falloir que tu fasses ce qu'on te dit. Si tu veux la vraie bénédiction dans ta vie, il va falloir nous écouter et acquérir ce que nous on possède et que toi, bien entendu, tu ne possèdes pas. Si tu veux connaître la plénitude spirituelle, tu dois être initié par nous. On va t'expliquer et te conduire. Tu dois te mettre à notre école. Et je le fais exprès d'employer ces mots. Il faut, il va falloir, tu dois, on va, te. Beaucoup cherchent des maîtres de vie spirituelle. Beaucoup de gens. Ça part d'une bonne intention. Parce qu'ils ont un vrai désir de croissance. Ils ont vraiment envie de découvrir qui est Dieu s'il existe. Donc ils ont ce désir-là. Et certains de ces maîtres prône un lâcher-prise de la raison et de la volonté pour avoir un soi-disant accès, un accès spécial, je dirais, à la caverne d'Ali Baba des bénédictions. Bénédiction du ciel. Pour avoir accès à des trésors divins qui seraient cachés, accéder à un secret, au secret des secrets, d'une vie spéciale, d'une vie bénie, d'une vie épanouie. Et la Bible vient un petit peu contrarier ce système-là en nous disant que finalement, il n'y a aucun technicien humain qui serait censé pouvoir résoudre les problèmes profonds de l'être humain. aucun technicien spirituel humain détient le secret de l'abondance spirituelle. Le prophète Jérémie disait « Le cœur est tortueux par-dessus tout, le cœur de l'homme. » Qui peut le connaître ? Qui ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sens de les reins. Toute la Bible nous montre que Dieu seul connaît le cœur humain. Et Jésus nous avertit, il nous dit, n'appelez personne sur la terre maître, car vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Et Jésus se présente à nous comme étant lui-même le chemin, en disant, nul ne va au Père sans moi, sans passer par moi. Dans Matthieu 11, dans la version Semeur, il nous dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Mettez-vous à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Les gnostiques, promettaient une union si étroite avec Dieu qu'elle permettrait à leurs adeptes d'atteindre cette perfection spirituelle. En fait, il leur suffirait d'accomplir des cérémonies, des rituels, et de mettre en pratique des enseignements qui sont prescrits, et finalement la plénitude spirituelle eh bien, serait à leur portée. Colossiens, chapitre 2, verset 8, qu'on verra dans les semaines à venir, où Paul dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous par sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » En fait, toute la spéculation de ces charlatans, parce que c'est des charlatans, et croyez-moi, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, partez de la question suivante. Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde si il a été créé par un Dieu saint? Vous voyez cette question-là qui revient un peu. Hein, pourquoi il y a du mal dans le monde alors que ce monde-là, cette création-là, elle a été soi-disant créée par un Dieu qui est parfait? Alors, à force de spéculer sur cette question, ils sont arrivés finalement à la fausse conclusion que la matière est mauvaise. La matière est mauvaise. Donc, un Dieu saint, un Dieu parfait, ne peut pas avoir de contact avec la matière mauvaise. Ils croyaient donc finalement qu'un monde d'esprit très puissant utilisait la matière pour attaquer les hommes et ajouter à cette théorie orientale une forme de légalisme juif, circoncision, nécessaire au développement spirituel. Circoncision. Les lois diététiques de l'Ancien Testament utiles pour atteindre la perfection spirituelle, là je parle de Colossiens 2. Des règles précises sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais, toujours Colossiens 2. Et donc, ça tournait comme ça, puisque la matière est mauvaise, eh bien il leur fallait absolument trouver les moyens pour contrôler la nature humaine. Et il y avait deux écoles en fait, deux écoles. Première école, l'ascétisme. L'ascétisme, c'est une discipline très sévère. Très, très sévère. Tu dois tenir ton corps, tu dois maintenir, tu dois par tes propres forces, en te crachant dans les mains, essayer de maintenir ta nature. Ascétisme. Deuxième école, liberticide. Tout est permis. Puisque la nature est mauvaise, et que de toute façon, ben, un jour elle disparaîtra, autant en profiter. Donc il y avait ces deux écoles. Dans les deux cas, une seule et même promesse, l'épanouissement spirituel. Et c'est dans ce sens que cette lettre est d'actualité. Méfions-nous de ceux qui nous proposent une vie plus profonde, plus bénie, plus ceci, plus cela, par des règles, des rites, des trucs, des systèmes qui mettent ou non la personne de Jésus-Christ à l'écart, alors que Jésus-Christ doit avoir la prééminence sur tout, sur absolument tout. La Bible enseigne qu'il est Dieu, on l'a vu dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ego emi, je l'ai assez dit, hein, je suis, tous les je suis dans Jean, en grec c'est je suis, c'est les je suis de Dieu. Que Dieu dit à Moïse, tu diras que celui qui t'envoie c'est je suis. Et à chaque fois que Jésus dit je suis, vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémané, quand on vient l'arrêter, qu'on dit on cherche Jésus de Nazareth, il dit c'est moi, ego emi, je suis. Et pouf, 400 personnes tombent à la renverse. Vous vous souvenez, on avait évoqué le fait qu'ils n'étaient pas une dizaine à venir l'arrêter, mais qu'ils étaient plus de 300 ou 400. Je suis. Alors, dans la Bible, on va l'ouvrir maintenant, parce que là, c'était une petite introduction. Excusez-moi. Colossiens 1. Et on va lire ensemble des versets. Oh, on va lire quelques versets en premier, parce qu'on va les relire après, donc je ne sais pas si vous avez vos Bibles, Colossiens 1, on va lire jusqu'au verset 15 à peu près, verset 13. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, nous garantons grâce à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ, et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On arrête là. Les 8 premiers versets nous montrent un apôtre Paul encourageant et reconnaissant. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien lorsque quelqu'un me rappelle le trajet que j'ai parcouru, les progrès que j'ai pu faire dans certains domaines et la façon dont je sers Dieu. Nous sommes malheureusement bien trop souvent avares de compliments. Je peux me poser la question, quelle est la dernière fois où tu as fait un compliment à ton frère ou à ta sœur? Le fait que Paul écrive cette lettre alors qu'il est en prison, ces encouragements-là sont encore plus beaux. Il est dans une situation difficile. Et nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu fait dans la vie des autres. Si un membre du corps est affermi, tout le corps est affermi. Si une église connaît un réveil spirituel sous l'impulsion de Dieu, hein, toutes les communautés devraient être édifiées. Malheureusement, notre société et notre nature égoïste nous poussent à l'inverse de ça. Donc Paul retrace toutes les étapes de la vie de cette communauté de Colosse et j'aime la façon dont Paul parle de l'évangile. Il dit « Cet évangile est parvenu jusqu'à vous tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier ». Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Vous savez, je rencontre parfois des prédicateurs qui ressemblent plus à des procureurs de la République, ou plus à des juges rigides, psychorigides, qui sont là en train de te, quelque part, comment dire ça, Ils dévoilent constamment le mal chez les autres. Ils sont tout le temps en train de dévoiler ce qui ne va pas. Les écarts de vie de ceux qui les écoutent. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle, de pardon, de foi en Jésus-Christ, finalement, elle est diluée dans leur discours, tu vois. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Et les paroles de l'apôtre Paul me montrent que Jésus-Christ doit être élevé non seulement dans nos vies, mais dans nos prédications. La prééminence de Christ. Et dans cet épître, dans ce premier chapitre, Paul va passer en revue les caractéristiques non seulement du message passionnant de l'Évangile, mais il va mettre en avant, il va nous faire un descriptif de qui est le Christ, qui il est vraiment. D'abord, l'Évangile est centré sur une personne, Jésus-Christ. Le thème de cette lettre aux Colossiens, c'est la prééminence de Christ. Le message de l'Évangile n'est pas centré sur une philosophie, une doctrine, ni même sur un système religieux, ni catholique, ni protestant, ni évangélique. Ça, c'est les hommes qui se font les petits clochers, quelque part, pour dire, ben, nous, on est un peu de cet avis, nous, on est un peu de cet avis-là, nous, on pense que ça, on pense que ceci, que cela. Mais l'Évangile est centré sur la personne de Christ. C'est pas un système. C'est pas un système. Et au verset 5, Paul décrit l'Évangile comme étant la parole de vérité. Souvenez-vous dans Jean 17. Ta parole est la vérité. Puis au verset 6 de notre épître, Paul précise que c'est par l'Évangile que nous connaissons la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi la grâce? C'est ce que Dieu nous donne et que nous ne méritons pas. Ça, c'est la grâce. C'est ce qu'on nous donne et que nous ne méritons pas. C'est comme si tu fais un cadeau à quelqu'un alors qu'il ne le mérite pas. C'est ça la grâce. Et la grâce dans notre monde, ce n'est pas la miséricorde. Hein. Ce n'est pas la pitié. C'est un cadeau volontaire. Je donne à quelqu'un qui ne le mérite pas. La bonne nouvelle de la grâce porte du fruit et fait des progrès dans le monde entier, dit Paul. Même aujourd'hui, même si on n'en parle pas à BFM TV, reste à savoir ce que nous qualifions de fruits. C'est quoi les fruits dont il est question? Est-ce le nombre d'églises? Est-ce des églises super structurées qui font construire des beaux bâtiments? Est-ce des missions avec une super stratégie de communication? Est-ce des super campagnes d'évangélisation? C'est ça les fruits?
Non.
Porter du fruit dans le monde, c'est avant tout projet, tout programme, vivre la personne de Christ. Être connecté à Christ dans notre vie, de tous les jours, vivre ses valeurs, l'Évangile vécu dans la société. Et c'est pour ça que Paul, au verset 10, il dit « Marchez avec Christ ». Marchez avec Christ. L'amour que nous portons les uns pour les autres, le bonjour que nous nous disons le dimanche matin quand nous arrivons, que nous prenons soin de voir un frère ou une sœur au bout de la salle et que nous disons, mais tiens, j'ai pas dit bonjour à cette sœur, je vais aller vivre Christ, l'affection que nous nous portons les uns pour les autres, en Christ. Alors, si tu devais offrir quelque chose qui puisse convenir au monde entier, qu'est-ce que tu offrirais? Je dis pas au monde entier. Je ne dis pas à une personne ou à une catégorie de gens, je dis au monde entier, à tout le monde. Qu'est-ce que tu offrirais? Des livres? Il faut savoir lire. Des vêtements? Bah, si tu vis au nord du Québec, tu n'auras pas besoin des mêmes vêtements que si tu vis ici. J'ai des vestes d'hiver, je les utilise une fois dans l'hiver. De l'argent? Il y a encore des gens qui n'en utilisent pas. C'est vrai. Sur notre planète, il y a des gens qui n'utilisent pas d'argent. L'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'Évangile. Ça, c'est pour tout le monde. Les charlatans n'apportaient pas un message au monde entier. Ils allaient là où l'Évangile avait été prêché et ils détournaient les croyants. Ils n'avaient pas de bonnes nouvelles pour ceux qui étaient perdus. Ils formaient leur petite élite de connaisseurs. Ils formaient leur clan, leur bâtiment, leur club de gens qui avaient ce truc en plus que les autres. Et dans les versets 9 à 12, Paul va faire une prière, la prière du prisonnier. Il ne prie pas pour lui-même, il prie pour les autres. Il prie pour les bénédictions spirituelles et pas pour les bénédictions matérielles. C'est vrai, il a raison. Les bénédictions spirituelles sont plus importantes que les bénédictions matérielles. Même si on a besoin des deux. Regardez sa prière, verset 9. « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » En fait, Paul est en train d'utiliser le langage, les mots que ces charlatans utilisent. Il emploie les mêmes mots. Connaissance, sagesse, intelligence spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui aiment employer le vocabulaire des chrétiens. Le vocabulaire de Christ, l'amour. Les concepts. Mais en fait, en les utilisant mal, ils en enlèvent toute la saveur, toute la puissance, toute la consistance. Et dans les prochains chapitres que nous allons voir plus tard, comment la contre-attaque de Paul au faux docteur se décline. Par exemple, au chapitre 2, versets 9 et 10, il dit « Car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Tout. Vous avez dit tout pleinement, en lui, plénitude et divinité. Toute la plénitude de la divinité. En grec, c'est comme s'il se répétait, Paul, là. Il est en train de dire, il est Dieu, mais il est Dieu. La plénitude, proskuneo, ça veut dire, il a tout, la plénitude. De la divinité, en plus. Hormis sa naissance d'en haut, notre naissance d'en haut, le fait que nous soyons nés de Dieu, pas d'une mère et d'un père, mais nés de Dieu, parce que c'est une chose qu'on demande à Dieu, de nous faire naître. Naître de lui, n'est-ce pas? C'est lui qui nous fait naître, spirituellement. Aucune autre expérience n'est nécessaire dans la vie chrétienne, dans la vie tout court. Aucune autre expérience n'est nécessaire. On est toujours en train de parler de nouvelles expériences, d'expériences. Non, non. L'expérience de la nouvelle naissance, c'est l'expérience avec un grand E. Paul est en train de dire, ne cherchez pas quelque chose de neuf. Continuez à grandir dans ce que vous avez déjà reçu. Bâtissez sur ce que vous avez reçu. En apprenant à connaître toujours plus la volonté de Dieu. Dieu veut que nous connaissions sa volonté, il le dit. Le Dieu de nos pères t'a destiné, il a dit à Paul, à connaître sa volonté, dans les actes. Dieu veut que nous le comprenions. Paul dira aux chrétiens d'Éphèse, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu n'est pas un farceur. Dieu n'est pas un dictateur lointain avec lequel on n'aurait pas de relation, ou qui donnerait des ordres sans les expliquer. Et c'est bien parce que nous sommes ses amis au travers de Christ, que nous pouvons savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Vous rappelez, Jean 15, « Je vous appelle ami, dit-il. Je ne vous appelle plus serviteur. » Il n'est pas ce personnage lointain qui fait les choses sans nous les expliquer, sans nous dire pourquoi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est vrai qu'il se passe dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. En Christ, le croyant dispose de tout ce dont il a besoin pour le voyage de la vie. Rien n'est oublié. C'est un peu comme l'idée d'un navire qui est prêt à quitter le port. Il y a tout. Tout est là. L'eau douce, la nourriture, les vêtements, tout est là. Quand nous sommes en Christ, nous sommes équipés. Nous avons tout. Tout pleinement en lui. C'est une bonne nouvelle, ça. Vous savez, le mot remplir, sous-entendu, on l'emploie souvent dans nos chants d'ailleurs. Parfois je dis attention à ce qu'on chante, parce que remplis-nous, c'est comme si on était une bouteille à moitié vide, où on dirait à Dieu, ben écoute, vas-y, glou glou glou, hop, vous allez remplir jusqu'en haut. Non, non. Le mot remplir sous-entend ce qui domine sur nous. Par exemple, lorsque je suis rempli de colère, c'est que la colère domine sur moi. Lorsque je suis rempli de joie, c'est la joie qui domine ma vie. Quand je suis rempli de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui domine. Ce n'est pas une question de à moitié vide, à moitié plein. On n'en est pas là. C'est dommage que parfois on prenne le Saint-Esprit pour, je sais pas, un liquide. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit, mais il parle du vin, il fait le parallèle avec le vin. Bref. Paul demande aux Colossiens d'être dominés par la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Verset 9, par quel moyen ? C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis, dominés par la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire discernement, de discerner ce qui est, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas. Et puis, au verset 10, il parle de l'obéissance. Marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, croître dans la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que l'obéissance produit ? Verset 11, « Vous devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. » Vous savez, l'obéissance à Christ, aux valeurs de Christ, nous donne de la force et de la persévérance. L'ordre que nous donne l'apôtre Paul pour la vie chrétienne est premièrement la sagesse en Christ. La deuxième chose, c'est la marche par Christ. Et la troisième chose, c'est le travail de Christ. Le travail de Christ, pas mon travail. Nous entrons dans sa moisson. Nous entrons dans son travail. Nous entrons dans son projet. Nous entrons dans son programme. Son programme à lui. Ce n'est pas lui qui entre dans notre moisson, c'est pas lui qui entre dans notre programme, c'est pas lui qui entre dans notre projet, dans nos projets. Vous savez, j'ai appris ça quand on est parti avec la famille au Québec. On était plein de programmes et de projets. Et à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que nous sommes en train d'entrer dans son projet ? Parce qu'on peut tous faire des projets, mais ce qui compte, c'est son projet. Et nous devons quelque part, c'est pour ça que ce discernement et cette intelligence spirituelle devrait nous permettre de discerner quels sont ses projets pour nous. On peut faire un organigramme de l'Église sur 10 pages. Est-ce que c'est son projet ? Comment on peut discerner si c'est ses projets ou les nôtres ? On peut avoir des bons projets. Je connais des communautés qui vont faire de l'évangélisation parmi les autochtones dans les réserves. Ah, ils ont un projet, ils veulent évangéliser. Ils font n'importe quoi, ils se font virer. Du coup, certaines réserves ne veulent plus de chrétiens. Ils n'en veulent plus. Parce qu'ils disent, mais c'est quoi ces gens-là, ça, c'est des illuminés, ça. Ils viennent, ils prennent nos gosses, ils nous demandent même pas. Ils viennent distribuer des traités, là. Ils viennent taper à nos portes comme si on était des misérables. Il est où le respect ? Ils arrivent, ils prennent des photos comme si on était au zoo. C'est exotique. C'est tellement exotique, les Indiens. Est-ce que nous faisons les projets de Dieu ? Ou est-ce que nous sommes dans nos projets ? Ce n'est pas nous qui travaillons pour Dieu, mais Dieu qui travaille en nous et par nous afin de produire le fruit de sa grâce à lui. Et la persévérance, c'est une caractéristique des plus importantes, finalement, dans notre croissance, parce que persévérer dans la vie de tous les jours, dans notre vie de couple, dans notre vie d'église, dans notre service pour Dieu, aussi au travers des épreuves, de la maladie, de la souffrance. Je reconnais que la persévérance dans l'épreuve travaille mon caractère. Je n'ai pas envie de vivre des épreuves, mais ça travaille mon caractère. L'épreuve, elle fait souvent sortir ce qu'il y a de mauvais en moi. Elle me presse comme un citron. Quand je souffre, et qu'est-ce qui sort ? C'est pas terrible. Hein. Parce que d'un coup, je tombe les masques. Parce que quand tout va bien, on a le sourire. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, là, notre caractère ressort. Ce qu'il y a de plus profondément enfoui en nous sort. Le masque tombe. Nos caractères, l'épreuve, ça peut être n'importe quoi. Dans la dispute, dans, dans n'importe quelle épreuve que nous vivons, ça nous presse. Alors soit on se aigrit, on devient amer, et on en veut à la terre entière, parce que c'est à cause de tous ces gens-là, regarde, ils ne prennent pas soin de moi, ou ils ne sont pas ceci, ou ils ne sont pas cela, ou ils devraient faire ceci, et bien tu te rends compte. Ou alors on se regarde dans la glace, on se dit, mais pétard, waouh, qu'est-ce qui sort de moi là? C'est pas beau, hein? C'est vraiment pas beau. La persévérance dans l'épreuve travaille notre caractère. L'image de l'or qui doit être purifiée est un enseignement de Jésus, n'est-ce pas? On raconte l'histoire d'un pasteur qui rendait souvent visite à un jeune homme chrétien qui avait été gravement brûlé. Ma mère a travaillé chez des grands brûlés. J'ai visité le service des grands brûlés de loin à travers une vitre, sur une porte. Mais rien que là, franchement, c'est marqué à vie. Un service de grands brûlés dans un hôpital, mais c'est impressionnant. Tu entends les gens crier, même avec les sédatifs. Les gens sont sur des lits où il n'y a pas de drap, des lits spéciaux, nus, brûlés. Ils ne peuvent plus s'alimenter, ils ne peuvent plus... Les besoins fondamentaux, c'est une catastrophe. En tout cas, bon, lui, il était assez gravement brûlé. Et un jour, ce jeune homme a dit à ce pasteur, « Je voudrais que Dieu fasse un miracle et qu'il me guérisse. » Et le pasteur lui a dit, « Tu sais, j'ai l'impression que Dieu a déjà fait un miracle, mais peut-être pas celui que tu attends. Parce que depuis ces dernières semaines, je t'ai vu grandir en patience et en gentillesse. Pour moi, c'est un plus grand miracle que la guérison de ton corps. Grandir en patience et en gentillesse. La puissance de Dieu se manifeste dans notre vie non seulement par notre patience, notre persévérance, mais par notre joie. Lorsque nous vivons une situation pénible et que nous manifestons une authentique joie dans la persévérance, j'ai du travail à faire à ce niveau-là, je l'avoue. Paul priait pour que les Colossiens puissent avoir une patience et une persévérance pleine de joie. Ça, c'est la véritable puissance de Christ dans nos vies. J'ai encore du chemin à faire, j'avoue. Et là, nous arrivons au cœur de l'épître. On va faire la dernière partie. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelqu'un peut me dire l'heure? Bigné, midi? D'accord. Bon, ça va. Yann, il me reste combien de temps? Je peux y aller, quoi. C'est bon. Alors, Colossiens 13 à 20. Allez, on le lit. C'est trop beau, on ne peut pas passer à côté de ça. Ça, on est obligé de le lire, hein, c'est pas possible. Hein. Colossiens 13 à 20. On rattrape le thème du jour. Alors, il nous a délivrés, sous-entendu Jésus, hein, du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Dieu, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pas rien ça. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21, on ira la prochaine fois. Couronnons Jésus-Christ, Seigneur de tout. Les faux docteurs de Colosse, tout comme les faux docteurs d'aujourd'hui, ne nient pas l'importance de Jésus-Christ. Non, ils ne le nient pas. Vous savez ce qu'ils font tout simplement? Ils le détrônent. Ils le détrônent. Ils lui enlèvent la place qui est la sienne. En fait, il lui donne une position éminente, mais pas une position prééminente. Vous comprenez ce que je veux dire? Il lui donne une position éminente, mais pas une position prééminente. Il y a quand même une différence entre une position éminente et une position prééminente. Hein. Elle est très subtile, mais elle existe. Ils ajoutent ce petit plus qui soi-disant nous manque. Ils ajoutent ce petit plus que t'as pas, que t'aimerais avoir, que tu sais pas comment avoir ou qu'on te dit comment tu vas l'avoir, bref. Dans leur philosophie, Jésus-Christ n'était qu'une des nombreuses émanations hein, de la divinité qui permettait d'atteindre Dieu. Et Paul est en train de refuter dans ce paragraphe ce que ces Colossiens disaient. Vous savez, très peu dans le Nouveau Testament, il y a très peu d'enseignements aussi denses sur la doctrine de Jésus-Christ. Paul donne 4 arguments en béton armé. C'est du béton armé ce qu'il dit là. 4. 1. Christ est le Sauveur, versets 13 et 14. Il est le Sauveur, celui qui nous sauve personnellement et globalement. Il sauve notre humanité. Il est en train de faire un travail, il fait un travail de sauvetage depuis la croix, depuis sa mort sur la croix. Deuxièmement, Christ est créateur. Troisièmement, il est la tête de l'Église. Mais pas l'Église catholique, protestante, évangélique, non. Il est la tête de l'Église, de son peuple, de ceux qui lui appartiennent vraiment, pas ceux qui vont faire des bondieuseries. Hein? Quatrièmement, il est le bien-aimé du Père. 4 arguments en béton armé. Sincèrement, on aurait dû couper le texte. On aurait pu travailler les quatre points. On aurait pu développer chacun de ces arguments. On n'a pas trop le temps. Donc, on va juste se pencher quelques minutes sur le second. Christ est le créateur, puisque c'était le fil conducteur. Les faux docteurs avaient des idées très confuses concernant la création. Ils enseignaient d'ailleurs que la matière est mauvaise, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'était assez confus leur vision du monde. Parce que c'est notre vision du monde qui compte. Hein. La Bible nous offre une vision du monde. Les Premières Nations ont une vision du monde. Notre société a une vision du monde. Et on voit les résultats d'ailleurs. Vision du monde. Donc leur condition, leur conclusion, était que Jésus-Christ ne pourrait pas avoir eu un véritable corps, car il aurait été en contact avec la matière. Ou alors, ils enseignaient que la matière est tellement mauvaise, y compris le corps humain. C'est mauvais. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est matière est mauvais. Donc, Paul va, finalement, il va utiliser ces 4 points pour contrer ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils sont en train d'enseigner, les conséquences étaient soit, comme je le disais, un ascétisme sévère, soit la débauche la plus complète. Soit on se protège de la matière et de nous-mêmes, jusqu'à se renfermer dans une boîte, comme ça on n'est plus tenté par quoi que ce soit, et encore il reste notre cerveau, ou alors on jouit pleinement, voilà, de toute façon, hein, voilà. Et Paul va expliquer donc 4 points. 1.15, en parlant de Jésus-Christ et de la création, il dit « Il existait avant la création. » Il existait avant la création. Ce que je dis là, c'est vachement important. Notre vision de Jésus-Christ. Il faut savoir que le terme premier-né ne fait pas référence à une chronologie, mais au rang, à l'importance. Jésus-Christ n'était pas le premier-né créé, puisqu'il a lui-même créé toute chose. Premier-né, ça signifie de première importance, de premier rang. Il est en tout le premier. Premier-né de toute la création signifie qu'il a la priorité sur toute la création. Jésus-Christ n'est pas un être créé. Il est Dieu éternel. Waouh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ça c'est ce que Paul nous enseigne. Il n'est pas un être créé. Paul utilise les mots « reflet visible »,« image visible » pour illustrer cette vérité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus-Christ est l'expression parfaite de sa nature. Dieu nous a parlé par le Fils en ces derniers jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1:3. Il est le Créateur. Il est le Dieu éternel. Et l'Épître aux Colossiens est finalement un formidable trait d'union avec nos précédentes études, finalement, comme si Dieu voulait ancrer quelque chose dans notre communauté, cette vérité qui est absolument fantastique. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que Dieu se révèle, n'est-ce pas? Parce qu'aucune créature humaine, Paul est en train de dire, aucune créature que vous côtoyez, quel que soit son niveau intellectuel, sa connaissance des choses spirituelles, son étude des religions, sa... N'importe quelle créature ne peut révéler Dieu. Jésus-Christ, c'est le seul qui peut le faire. Donc si c'est le seul qui peut révéler Dieu, c'est qu'il est lui-même Dieu. Verset 16, « Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, puisque Christ a créé toute chose, il n'a donc pas lui-même été créé. Jésus-Christ est le premier-né parce qu'il a créé toute chose. Il n'est pas étonnant que le vent, les vagues, lui obéissent. Il n'est pas étonnant que sans le développement d'une vigne ensoleillée, au bon endroit, qu'il puisse créer du vin, puisqu'il est le Créateur. Hop, il y a du vin, et du vieux en plus. Il n'est donc pas étonnant qu'il puisse multiplier du pain sans pétrir la pâte ni allumer un four. Il n'est pas étonnant qu'il puisse transformer notre vie et faire de nous de nouvelles créations. C'est pas étonnant. Seulement par sa parole puissante et l'action de son esprit. Jésus-Christ est le Créateur. Alors c'est vrai que c'est une vérité qui m'a jamais autant interpellé que depuis que je suis parti quelques mois, là, quelques semaines. Ça fait peut-être 3 années que je m'émerveille de plus en plus devant la création de Dieu. Peut-être même que c'est le seul moment où il y a des moments où j'arrive pas à me mettre là à prier comme ça. Je suis obligé d'aller balader. Mon chien, il m'oblige, donc j'y vais et je vois et je regarde. Et rien que le fait de regarder et de voir, pour moi c'est une prière. Parce que ça m'incite, ça me pousse. Romains 1, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu lorsqu'on considère ses ouvrages. Nous avons vraiment un besoin, on l'a vu encore l'autre soir avec l'étude des animaux, on a vraiment besoin de devenir un peu plus des contemplatifs. Des gens qui contemplent, contemplatifs, ils prient, ils regardent. Ça rend la louange facile, admirer la création. Parce qu'au travers de la création, je vois Christ. Vous savez, dans la culture amérindienne, chaque animal est respecté pour ce qu'il est et pour ce qu'il apporte à la vie. Et tous les éléments qui constituent la nature, c'est pareil. Un caillou, l'eau des ruisseaux, le sable, les arbres, les insectes. Ils représentent pour les Premières Nations le grand cercle de la vie et se doit d'être honoré et protégé. Telle est la volonté du Créateur et l'essence de la culture amérindienne. Je vous laisse chercher la signification de l'aigle dans la Bible. On a vu l'aigle. Pour les Amérindiens, il est le trait d'union entre la terre et le grand esprit créateur, le grand Manitou. Quel magnifique point d'ancrage nous avons pour présenter Christ. Pas pour présenter une religion qui les a bouffés pendant 400 ans. Christ, parce qu'il est tout, il est prééminent sur tout, il est le Créateur. Il est. Un proverbe amérindien dit ceci, « Le fait d'éloigner le cœur de l'homme loin de la nature le rend dur. L'oubli du respect dû à ce qui croit, ce qui grandit, et à ce qui vit, amène à ne plus respecter l'homme. » C'est tellement vrai. Le fait de s'éloigner de ce que Dieu crée, de la création de Dieu, rend nos cœurs durs. Et finalement, ça me fait penser à ce passage de Jean aussi, dans 1 Jean, qui dit que comment peut-on voir Dieu? Comment peut-on dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère? Moi je dirais même, comment puis-je dire que j'aime mon frère si je n'aime pas la création de Dieu? Ou comment puis-je dire que j'aime Dieu si je n'aime pas sa création, ce qu'il a créé, ce qu'il a fait de ses mains? Ils sont donc inexcusables, la Bible dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements. Leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Toute chose existe en lui, pour lui et par lui. On ne peut pas passer à côté d'une telle vérité. On ne peut pas. Comment pouvons-nous vivre sans être émerveillés? Toute chose existe en lui, pour lui et par lui. Paul utilise ses prépositions pour refuter les théories des faux docteurs. En lui, pour lui, par lui. Il va jusqu'à affirmer que tout subsiste en lui, en Christ. Que tout l'univers, que par lui, tout l'univers est maintenu en vie. J'aimerais bien qu'on parle du Christ comme ça et pas qu'on le mette simplement dans une crèche, comme un santon, ou sur une croix crucifiée. J'aimerais bien qu'on me parle du Christ de cette manière-là. Et pas parce qu'on affiche une pancarte avec en disant « moi je suis chrétien » ou « on est une église » ou je ne sais pas. Mais je vois la présence de Christ. Tout est maintenu en vie, matière, particules, tout est maintenu par Christ et il n'y a que Dieu qui peut maintenir tout ça. Faire de Jésus-Christ un être inférieur à Dieu, c'est le détrôner. Au début de ma vie chrétienne, je pensais que le diable et le mal contrôlaient ce monde. J'ai changé d'avis. C'est Jésus-Christ qui contrôle toute chose et par lui seul que tout est maintenu en vie. Ce monde lui appartient. Certes, il permet que les hommes aillent jusqu'au bout de leur folie, mais attention, c'est lui qui va avoir le dernier mot, parce qu'en tout, il est le premier. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est lui qui détient la clé du séjour des morts. Dans la Bible, c'est clairement ce qui est écrit par Jean. Il est avant toute chose le premier. Que Dieu vous bénisse, je vais prier.